ici Chantal Lavoie. Bienvenue à Aime l'été en ce mercredi 10 août, une autre émission fort divertissante qui vous attend pour la prochaine heure. Et au menu, la musique qui rassemble, qui donne un sens à notre vie, qui prend place dans notre imaginaire collectif, avec des musiciens qui font partie de notre identité, également de la musique country moderne qui s'installe en ville. De plus, à l'émission, une exposition urbaine insolite à Québec et du cinéma en plein air. Ici à Canal M, on aime l'été. Et oui, aujourd'hui, on s'en va parcourir les rues de Québec, découvrir cette exposition inusitée, Passage insolite. Une autre exposition qu'il faut voir cet été, eh bien, c'est celle des Cowboys fringants, ce groupe qui a marqué le Québec, notre identité, et qui, après 25 ans, est toujours aimé du public. Et il sera question aussi de cinéma, et notre chroniqueuse Camille Cusset nous parle effectivement de cinéma en plein air, mais aussi d'une belle programmation de films sur TV5 Uni. Mais d'abord, les Cowboys d'aujourd'hui se donnent rendez-vous au Festival Lasso au Parc Jean-Drapeau. Vous écoutez Aime l'été.
Je sais, les derniers mois ont pas été faciles. Tu pouvais pas savoir, on pouvait pas prévoir. Il y a tellement de fois où j'aurais voulu qu'on s'écrive, mais je savais pas quoi dire. J'avais besoin de te voir pour sentir que rien n'avait changé. Que le temps perdu allait toujours se rattraper. Qu'est-ce que tu dirais qu'on porte juste nous deux? Qu'on perd nos normes pour mieux pouvoir le retrouver. Promis, je dirais rien, on écoutera ce que tu veux. On veut. Ça fait 3 jours que je cherche le plus beau souvenir pour nous ramener un peu au temps d'un ciel plus bleu. Mais je reviens toujours à quand tu t'es cassé le bras, parce qu'au moins cette fois-là, je savais que ça irait mieux. Si je disais que rien n'allait changer, que le temps perdu. Qu'est-ce que tu dirais qu'on part juste nous deux? Qu'on perd nos nord pour mieux pouvoir le retrouver. Promis, je dirais rien, on écoutera ce que tu veux. On va être bien dans mon charme, même en février. C'est toujours l'heure d'été. Je roulerai pas trop vite, juste assez pour.
C'était Léa Jarry qui chantait l'heure d'été, artiste de la programmation du Festival Lasso, dont on va parler. Révélation de l'année et album de l'année country à l'automne 2021. Léa Jarry a définitivement un parcours qui ne cesse de surprendre. L'artiste originaire de Baie-Saint-Paul quittait tous ses repères il y a 10 ans pour venir étudier en musique et vivre de sa passion dans la grande ville. Alors, après avoir cumulé des années d'écriture et d'expérience, eh bien, elle signait son premier contrat de disque. En mai 2019, elle lançait entre-temps un mini-album de 4 titres originaux. Et puis, oui, c'est ça, 4 titres originaux francophones, hein, qui nous ouvraient la porte d'un univers country folk unique et personnel. Et puis, en 2020, elle remportait le prix de l'auteur-compositrice de l'année Socan. Elle poursuit son ascension avec un tout premier album complet intitulé « L'heure d'été », paru à l'automne de cette même année et chaleureusement reçu. Bon, alors voilà, et elle sera donc du Festival Lasso, effectivement. Et j'en parle de ce festival avec Audrey Johnson, coordonnatrice programmation de ce Festival Lasso 2022. Bonjour!
Bonjour.
Alors, c'est un festival de musique country moderne. Hein? Et puis, bon, la première édition de l'Asso a été remise hein, en 2021 et remise à 2022 finalement. Alors là, on va bel et bien l'avoir, ce festival.
Exactement. On est impatients d'enfin pouvoir proposer du country à Montréal après 3 ans d'attente.
Eh oui, alors donc, ce sera les débuts en première mondiale de ce festival. C'est le seul festival de musique country dans un environnement urbain. Et là, ce sera vraiment, ben, c'est-à-dire un environnement urbain. On parle du parc Jean-Drapeau, mais on est tout à côté, évidemment, de Montréal. Mais c'est un site fantastique pour accueillir un tel festival.
Exactement. On pense qu'on a vraiment une formule unique à proposer, dans le fond, aux festivaliers, aux amateurs de country. C'est sûr qu'il existe toutes sortes de festivals country à travers le Canada, à travers les États-Unis. La plupart sont des festivals de camping. Donc, nous, on a une offre qui est vraiment différente. On est à 10 minutes du centre-ville. On a un site avec vraiment des belles infrastructures. Je pense qu'on a quelque chose de super le fun sous
la main. C'est ça. En fait, vous projetez de devenir le Hochéaga de la botte de cowboy.
Oui, exactement.
Façon de parler, on va rigoler un petit peu. Mais bref, oui, effectivement, vous avez quand même de grandes ambitions pour ce festival parce qu'habituellement, comme vous le dites, il existe d'autres festivals. Souvent, c'est en région. Souvent, ce sont des festivals qui n'ont pas lieu nécessairement dans les grandes villes. Alors là, cette fois-ci, ben oui, alors on veut vraiment implanter ça dans les grandes villes. Et puis, en fait, c'est un peu chapeauté par le producteur Evenco, hein?
Oui, exactement. En fait, c'est ce qui a permis en fait d'offrir le festival à la base, c'est qu'on a déjà les infrastructures en place parce que puisqu'on fait Hochéaga et Hiltonic les fins de semaine précèdent l'assaut. Donc, c'est ce qui permet d'offrir le festival, dans le fond.
C'est ça. Et d'ailleurs, on dit, ben, le producteur Evenco dit que les ventes de country vont super bien au Centre Bell depuis quelques années, depuis au moins 4 à 5 ans.
Oui, exactement. En fait, on l'a constaté vraiment de manière très claire en 2016 quand on a annoncé la venue de Luke Bryan au Centre Bell. Puis les billets se sont vendus vraiment comme des petits pains chauds. C'est parti super rapidement. Puis là, on s'est dit, bon, ben, il y a visiblement un intérêt, il y a un engouement autour de ce genre de musique-là, même si c'est pas toujours ce qu'on entend le plus souvent à la radio. Et donc, pourquoi pas en faire un festival.
C'est ça, il y a un public et il y a des vedettes, des superstars internationales et des vedettes locales également, autant du Canada, du Québec, de Montréal. Alors vraiment, les fans de country, mais on parle de country moderne. Vraiment, il faut quand même dire que là, on n'est plus, bon, à une certaine époque, là, quand même, on parle de choses quand même qui vont autant dans la musique folk, enfin, dans différents univers également.
Exact. Bien, on voulait proposer, dans le fond, une œuvre de country qui était un peu plus moderne, comme vous dites, qui était plus proche du néo-country, avec des artistes qui sont un peu plus pop, parfois un peu plus, qui se rapprochent du rap, avec des Blanco Brown, par exemple, ou Breland, des artistes qui font un peu plus de la folk, comme Sarah Dufour, pardon. Donc, on essaie de diversifier l'offre, mais de rester quand même dans un country plus moderne
c'est
que
ça.
Traditionnel.
Et donc, vous attendez bon des milliers de visiteurs. Si vous aviez quoi 20 000 visiteurs, vous seriez très content, hein, par jour.
Absolument, absolument, ce serait une belle réussite pour nous.
Alors donc, les artistes. D'abord, Matt Lang, qui en est le porte-parole cette année. Il sera oui. Bon. D'ailleurs, on pourra le voir à Québec aussi le 6 octobre prochain. Mais en fait, il figure vraiment parmi les artistes new country canadiens les plus prometteurs.
Absolument, Matt Lang, c'est vraiment un artiste qu'on aime beaucoup, qu'on est très content d'avoir sur le festival cette année. C'est un artiste qui est plein d'énergie, qui donne un show incroyable, qui est vraiment charismatique, puis dont la musique est super entraînante. Donc, on est certain que ça va être une belle réussite là, sur le festival. C'est sûr que c'est un show à pas manquer.
C'est ça. Il était d'ailleurs au Festival d'été de Québec en juillet. Bon, et puis il sera ce samedi au Festival Lasso, donc on pourra le voir. Vous avez parlé de l'Américain Luke Bryan.
Oui. Luke, dans le fond, qui est une superstar du country américain qui roule depuis plusieurs années, là, plusieurs dizaines d'années, qui a vraiment été au top de tous les palmarès américains et canadiens du country, qui est également un très bon performeur qui va définitivement enflammer la soirée de clôture samedi soir. Aucun doute là-dessus.
Puis, bon, il y en a tellement, il y en a plein d'autres. Là. Bon, on peut parler de Jojo Mason?
Oui, Jojo Mason, qui est un artiste canadien qui va pouvoir nous faire danser assurément durant son set. Je crois que c'est samedi, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Et puis, bah, parlez-nous des autres. Il y a Lily Rose, aussi une Américaine qui innove hein, sur la scène musicale de Nashville, entre autres. Ouais.
Oui, exact. On trouvait important d'avoir des artistes qui étaient de plusieurs genres, mais aussi, tu sais, on voulait des femmes, on voulait des artistes issus de la diversité, on voulait offrir quelque chose qui était à l'image du nouveau country puis de la direction dans laquelle le country s'en va. Donc, Lily Rose, c'est un bel exemple de ce genre d'artiste. Je pense que ça va vraiment être un show super intéressant à voir. C'est le genre d'artiste qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans ou il y a 15 ans dans un festival country.
C'est ça. Et puis, bon, je pense aussi à Jade. Je ne sais pas si je... Des fois, je ne veux pas mal prononcer leur nom, mais Jade Eagleson.
Oui, Jade Eagleson, ça, c'est en fait, n'est pas sur la programmation du festival. Il sera au MTLUS, en fait, demain soir pour lancer les festivités. Donc, on fait un pré-party au MTLUS avec J.D. Goldstein. Il va y avoir Five Roses également et Alex Berger. Et ça va assurément être super le fun. D'ailleurs, il reste des billets si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Ça va être une belle soirée de lancement.
Et oui, je vois Sarah Dufour aussi, une jeune et brillante auteure-compositrice originaire de Dolbeau-Mistassini. Alors, des artistes vraiment aussi de chez nous.
Oui, exactement. Sarah, comme vous dites, elle est originaire de Dolbeau-Mistassini, pardon. Elle chante en français, elle a un style un peu country folk. Et donc, pour les amateurs de musique québécois, puis les amateurs de musique de country folk, je pense que c'est vraiment une belle découverte. Elle a le vent dans les voiles depuis quelques années, puis elle va assurément être un bel ajout au festival.
C'est ça. Donc, vraiment des artistes à connaître, à découvrir, hein, pour ceux qui sont moins familiers. Et puis, Mountain Disease aussi, finalement suit la vague de popularité du mouvement New Country, bien sûr. Alors, vraiment, donc, des artistes à découvrir et bien d'autres encore. Donc, alors, ça se déroule sur deux jours, hein?
Oui, exactement. C'est le vendredi 11 août et le samedi 12 août.
Voilà. Et puis, il n'y a pas aussi le 13, il n'y a pas un... est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe le 13 par hasard?
Non. Le 13, cette année, on s'est dit qu'on donnerait le temps aux gens de respirer un peu, puis
bon,
de se reposer,
d'accord.
Se remettre du week-end.
C'est vraiment le 11 et le 12, d'accord. Alors donc,
exact,
pour ceux qui
ouais.
veulent faire soit leur baptême du country moderne, eh ben voilà, c'est le temps d'en profiter en fin de semaine, aller bien sûr assister à ces spectacles au parc Jean Drapeau. Évidemment, aussi, on veut présenter des artistes quand même. L'Asso, on veut présenter des artistes à longueur d'année, idéalement aussi.
Oui, exactement. On a déjà commencé à le faire. Puis aussi, je vais juste me corriger. J'ai dit le 11 et le 12. En fait, c'est le 12 et le 13.
Ah, c'est ça. C'est pour ça.
Le vendredi et samedi.
Je voyais le 12 et le 13. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai mal marqué mes dates. Voilà.
Non, pas du tout. Mais oui, donc l'idée, effectivement, c'est d'essayer de présenter le plus de spectacles country intéressants à travers l'année. On a déjà commencé à le faire, en fait, depuis 2019-2020, quand on avait annoncé la première édition qui devait avoir lieu en 2020, on avait déjà commencé à le faire. Donc, on a essayé de continuer de le faire le plus possible, évidemment, considérant les circonstances de la pandémie. Mais
ouais.
Donc, on a fait plusieurs shows. Ouais.
Exactement. Et puis là, il y a Chris Stapleton qui sera au Centre Bell le 8 septembre. Alors, cet auteur-compositeur-interprète qui a même écrit pour la chanteuse Adele. En tout cas, alors c'est ça. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. On peut dire que, oui, le country moderne, effectivement, a sa place à Montréal, a sa place partout. Et puis, il y a vraiment un public pour ça. Alors, le premier festival L'Asso à Montréal, on vous souhaite énormément de succès.
Ben merci beaucoup.
Et puis, il y a de l'offre alimentaire fort aussi. On peut manger, y boire. Hein, ça, c'est important de le mentionner. Des food trucks,
absolument,
des kiosques,
oui, exactement. On trouve ça important de le souligner. On a vraiment une belle offre alimentaire. On a plusieurs restos montréalais qui vont être sur le site. Je pense au Street Monkeys, qui est un restaurant cambodgien, qui vont avoir un camion de rue. On a Paul Toussaint qui va offrir de la cuisine antillaise. On a de la cuisine... de la paella, on a des options végétaliennes,
des pizzas.
Il y a vraiment plein de belles choses.
Et voilà, des pokéballs, enfin, il y en a pour tous les goûts. Bref, merci
exactement.
Bien et puis bon festival, bon party au parc Jean Drapeau.
Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bonne fin de semaine.
Merci et puis bonne semaine à vous.
Merci.
Bonne fin de semaine à vous.
Au revoir.
D'accord. Au revoir.
Merci, au revoir.
Je sais que je ne t'attendrai jamais, je sais que tu le sais. Je sais que tu ne m'attendras jamais, je sais que je le sais. I and I, Rastafari, Rude Boy, I, Banzai, je t'attendrai toujours sur le point de non-retour. Et mon âme divague et fait d'immenses vagues. La lune est une aspirine et je vois la croix du sud et la croix Bayeux. Il suffit de savoir se parler toujours les yeux dans les yeux. Trop souvent on déblatère sans que l'âme jamais ne se désaltère. Serais-je trop porté au rêve? Serait-ce la raison pourquoi je tombais dans le psychotrope où les chevaux rouges galopent jusqu'au cyclope et clope et clope. Voilà comment finissent les petits chevaux rouges qui galopent en escalope arrosés d'un grand verre de misanthrope. Où sont mes clopes?
Nous écoutions Jean Leloup, Fashion Victim. Notre prochaine invité que nous devions recevoir rêvait de tourner un clip pour Jean Leloup. Hein. Bon, justement, on devait recevoir Gabrielle Leila Titley, alias Pony, artiste en art visuel multidisciplinaire et ambassadrice de l'exposition Passage insolite qui a lieu présentement du côté de Québec. Alors, on tente présentement de la joindre, mais enfin, vous savez, c'est une nouveauté cette année que l'arrivée de cette première ambassadrice de l'événement, donc Pony, je vais l'appeler ainsi. Pour l'occasion, bon, elle prend le micro d'ailleurs du balado Soif d'insolite, où elle explique le travail et l'intention des artistes qui présentent des œuvres dans cet événement artistique, les Passages insolites. Alors, c'est disponible en ligne, notamment sur Spotify. Et puis, bon, elle nous parle aussi notamment du musée Bad Art, originaire de Boston, qui est de retour avec des œuvres. Disons que le musée Bad Art, en fait, c'est un musée privé dont l'objectif déclaré est de célébrer le travail d'artistes dont les œuvres ne pourraient être montrées et appréciées ailleurs. On dit trop mauvais pour être ignoré. Alors, ce sont vraiment des œuvres qui, enfin, sont presque pas montrables, mais qui deviennent pratiquement iconiques, en quelque sorte. C'est très drôle. Alors, pour vous parler, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que c'est que cette exposition, Les Passages insolites. D'abord, c'est Ex Muro, l'organisme derrière la conception originale de Passages insolites, qui a créé cet événement. Cet Ex Muro art public qui a pour mandat de concevoir, de diffuser des projets artistiques comme ça, pluridisciplinaires, dans l'espace public urbain. Alors, donc, ils conçoivent, produisent, diffusent des œuvres d'art public comme ça, temporaires. Et puis, alors, c'est une autre façon finalement, de vivre la ville. Alors, c'est un parcours, concrètement, sur 2,5 kilomètres. Le nouveau parcours a été réduit cette année parce qu'avant, on pouvait marcher jusqu'à 5 kilomètres. Alors, cette année, ça va être un peu plus court, parcours de 2,5 kilomètres. Et c'est présenté jusqu'au 10 octobre cette année, composé de 17 œuvres réalisées par des créateurs, tant locaux qu'internationaux. Il y a quelques œuvres qui reviennent cette année, mais la plupart sont des nouveautés. Alors, voilà, donc ça, c'est dans le quartier du Petit Champlain et du Vieux-Port à Québec. Alors, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est la 9e édition de Passages insolites, donc. Et puis, c'est ça, il y a différents artistes qui présentent toutes sortes de choses tout à fait inusitées. Également, il y a le retour, on note le retour cette année, des embuscades artistiques. Alors, ce sont des sortes de performances inusitées, improvisées aussi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire. Et puis, c'est ça. Donc, on arrive comme ça, on voit des choses qui se passent de manière tout à fait insolite. Là, disons, les gens qui déambulent dans les rues ne sont pas nécessairement au fait, sont tout à fait évidemment surpris de voir ce qui se passe. Alors, c'est vraiment ça pour... C'est un événement très particulier, donc, qui se déroule à Québec comme ça jusqu'au mois d'octobre. On essaiera de parler à cette dame, peut-être on va essayer de la relocaliser dans notre programmation. Chose certaine, si vous ne la connaissez pas, je parle de Gabrielle Laïla Titlé, alias Pony, que nous devions recevoir, vous pouvez la découvrir en couverture du magazine Clin d'œil de juillet et août, parce qu'elle s'est donné une mission, cette artiste, hein, elle fait des œuvres aussi par rapport à la santé mentale. Alors, c'est intéressant. Alors, c'est vraiment à suivre. Elle a tout un parcours. Alors, justement, allez lire peut-être Le clin d'œil de juillet et août et vous en saurez davantage sur cette artiste multidisciplinaire. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et puis, on fait un peu de musique, là, et ça va nous faire du bien, ça va nous détendre et puis on revient après.
Consulter visage. La chanson ce soir, c'était le groupe Mono Grenade.
Et c'est Mathieu Tessier que vous entendiez à l'instant à la régie. Merci à la réalisation également. Alors, merci à notre collaborateur et merci aussi à Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche. Eh bien, on s'en va vers notre deuxième moitié d'émission de M l'été. À venir, il y aura notre chronique cinéma, mais aussi dans les prochaines minutes, on va parler de l'exposition des Cowboys fringants. Et nous allons parler avec les commissaires de l'exposition, ceux qui ont conçu, enfin les architectes de ce parcours ludique et original, vraiment. Alors, une exposition que j'ai vue justement il y a quelques temps. Alors, c'est vraiment une exposition très intéressante. Mais je pense que les Cowboys fringants aussi, il y a tellement de choses à dire. Et puis vraiment, d'ailleurs, j'ai recueilli une petite brochure là, et puis il y a plein de choses qui sont dites là-dedans. Alors, si vous allez à l'exposition, n'oubliez pas là, de lire, de parcourir cette magnifique brochure, vraiment, pour en savoir plus long sur l'imaginaire des Cowboys fringants également et sur ce groupe qui marque notre identité québécoise.
Vous écoutez Aime l'été.
Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, j'suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de voir partir ma mignonne. Simon, le mois passé, savait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as pris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, j'suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
C'était les Cowboys fringants qui chantaient « Tune d'automne », une des chansons du groupe qui a été parmi les plus jouées avec notamment les étoiles filantes. Les Cowboys fringants qui continuent à donner des spectacles cet été malgré l'annonce du chanteur Carl Tremblay au sujet de son cancer et de traitements à venir. Mais pour l'instant, tout va bien et pas la peine de dire que le public est au rendez-vous et qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions et d'amour dans les spectacles des Cowboys fringants, des moments toujours très festifs. Alors, d'où provient ce lien si fort entre le groupe et les fans et le public? Enfin, je pense que mes prochains invités sauront mieux vous en parler que moi. J'accueille Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau, commissaires de l'exposition, les architectes, comme je le disais plus tôt, les architectes en quelque sorte de ce parcours original et ludique. Bonjour!
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 Ah, ben les Cowboys fringants, oui, c'est un véritable phénomène, on peut dire un groupe phare de la culture musicale québécoise. Depuis leur début, l'intérêt a toujours été présent. On peut dire qu'aucun groupe québécois n'a connu une carrière aussi longue, plus de 25 ans, et une carrière fructueuse. Alors, les Cowboys fringants, vraiment, ils sont très proches du public, très respectueux de leur public et vraiment très généreux aussi. Donc, phénomène social qui a inspiré cette exposition. Comment ça a germé cette idée d'organiser cette exposition?
En fait, le projet est à l'origine du projet, c'est l'équipe du Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. Les membres des Cowboys fringants sont originaires de la région, sont originaires d'autour de Repentigny, ils ont grandi là. Et la ville, pour les 350e anniversaire de Repentigny, avait invité les Cowboys à être les porte-parole de l'événement, annulé à cause de la pandémie de COVID-19. Donc, cette exposition-là arrive un petit peu après. On l'a un peu réorientée, mais elle est toujours, je pense, une forme d'hommage de la ville à ses citoyens.
Eh oui. Les Cowboys fringants, donc, qui ont toujours d'ailleurs célébré la banlieue. Alors, donc, effectivement, Repentigny, qui est l'exemple type d'une banlieue. Et puis, bon, alors, c'est une première rétrospective, là, qui pose vraiment un regard sur toute cette carrière exceptionnelle de ce groupe.
Oui, puis disons que leur carrière a suivi aussi l'évolution d'un certain Québec post-référendaire aussi. Et ça a commencé effectivement avec la banlieue et puis des regards introspectifs dans l'écriture des textes. Et ensuite, on évolue vers une prise sociale, une prise de conscience sociale plus large, plus vaste et qui aussi va maintenant vers l'environnement avec une pratique même scientifique d'un des membres.
Oui, c'est ça, Jérôme Duprat, oui.
L'exposition, elle a suivi, l'exposition non seulement suit leur carrière dans le parcours de cette expo-là, mais aussi elle est accompagnée il y avait un comité scientifique qui a été créé, puis elle est accompagnée de regards de ce comité scientifique-là qui aussi parle à la fois des Cowboys fringants et à la fois d'un certain Québec, d'une certaine population du Québec. Puis au départ aussi, une chose qui est importante à dire, c'est que leur petit groupe de fans, au début, leur est resté fidèle, mais il s'est amplifié pour rejoindre pratiquement toutes les couches de la société.
C'est vrai.
Et on a découvert aussi à quel point notre étonnement et leur étonnement qu'ils ont eu quand ils sont allés en France et puis que quand ils ont commencé leur spectacle, ils ont réalisé que tout le monde chantait avec eux, qu'ils étaient leurs chansons étaient connues en France, c'est que ce sont des propos qui sont aussi universels.
Exact.
C'est universel.
Tout à fait. Donc, c'est ça, cette force des chansons des Cowboys fringants qui atteignent vraiment l'universel par leurs propos à la fois intemporels. Et puis bon, comme vous disiez, le public est très diversifié. C'est vraiment intergénérationnel. Les parents, les enfants, enfin, tout le monde connaît, même les jeunes, les très jeunes peuvent connaître les paroles des Cowboys fringants.
On a dit à la blague que c'était probablement le groupe à faire jouer dans une voiture pour un voyage en Gaspésie sans que personne se calme.
Oui, mais tout à fait. Et puis l'exposition, alors c'est vraiment bon, d'abord, il y a une scénographie participative. Il faut dire que vous êtes vous-même architecte de formation. Hein, vous œuvrez dans le domaine du design, de l'architecture et tout. Et puis bon, la scénographie. Bref, alors c'est sûr que vous étiez tout désigné hein, pour... penser et concevoir une telle exposition?
En fait, l'expo est un peu... on s'est dit, c'est à Repentigny, c'est les Cowboys fringants, il faut avoir du plaisir, il faut... ils sont à la fois sérieux et révérencieux un peu, donc il faut avoir un peu de plaisir. Mais d'un autre côté, cette longévité-là, elle est remarquable. Et pour comprendre pourquoi cette longévité-là, c'est que quelque part, ils nous ont accompagnés dans les 25 dernières années à une prise de conscience environnementale, sociale, je sais pas, on part avec eux des chansons à boire, après ça, la conscience du premier appartement, donc toute une période un peu plus urbaine, la manifestation, une période de prise de conscience de l'Amérique, de cette francophonie-là américaine et tout ça. Donc, l'exposition, elle a et donc ces deux aspects-là, plus quelques très beaux objets que les Cowboys fringants nous ont envoyés pour les fans purs et durs auront quelques beaux objets à se mettre.
Ouais, c'est ouais, ça.
Il fallait de, ben, en fait, quand on fait une exposition, on en fait quelques-unes, nous, mais il y a un choix à faire sur le type d'exposition. Puis là, dans ce cas-ci, on a misé sur une exposition participative parce que les gens qui vont visiter là sont soit des fans reconnus ou des fans potentiels. Et donc, il y a une incarnation. Donc, quand on rentre dans l'expo, les fans qui sont rentrés avant nous, les visiteurs qui sont rentrés avant nous, deviennent des participants. Donc, ils deviennent une partie d'exposition. Et on s'est dit aussi que il fallait qu'on ait un sourire en coin dans l'exposition. Donc, même les artefacts, là, comme le dit Anne-Marie, qui nous ont été confiés par les Cowboys fringants, ben là, il y en a là-dedans là, qui vont faire sourire les connaisseurs, les moins connaisseurs aussi, mais les connaisseurs vont pouvoir faire étalage de leur véritable connaissance.
Ouais, c'est ça. Donc, alors concrètement, ça veut dire que, bon, il y a d'abord, l'exposition propose un parcours de visite composé d'une ligne du temps et vous parliez justement de ces événements en parallèle de leur carrière, oui. Tous ces événements qui ont marqué le Québec. Alors, ça peut être pas juste le Québec, mais évidemment le monde entier parce qu'on part du premier référendum au Québec, la chute du mur de Berlin, on réfère même à la tuerie de Polytechnique, la crise d'Oka. Enfin, il y aura toutes sortes d'événements comme ça, l'attentat à New York, au World Trade Center et puis bref, alors, mais parallèlement, c'est évidemment la carrière des cowboys qui sont révélés aussi à travers cette ligne de temps. D'ailleurs, puis quand on entre à l'exposition, ce qui est drôle, c'est aussi, vous avez mis une vidéo, et puis là, c'est l'Amérique pleure qu'on entend, d'ailleurs, qu'on entend en sourdine tout au long de l'exposition. Et puis, il y a cette fameuse danse en ligne.
Oui.
Et puis, vous avez mis les pas au sol, de sorte qu'on pourrait réussir à retrouver la chorégraphie.
Oui, c'est ça. Ben, dès le début, là, les gens qui entrent dans l'exposition comprennent qu'ils vont participer à l'exposition. Ça, c'est clair.
Oui, c'est ça. Et puis, alors là, on se met régulièrement nos écouteurs là, pour justement aussi entendre de la musique, mais il y a toutes sortes de petites choses qui sont projetées, des vidéos aussi, hein, des extraits de spectacles. C'est intéressant de les revoir plus jeunes.
Oui. En fait, quand on travaille sur une exposition dans un musée traditionnel, on travaille avec une collection d'artefacts, une collection d'objets ou une collection d'œuvres d'art. Dans ce cas-ci, la collection qu'on avait à mettre en valeur, ce sont les chansons des Cowboys fringants.
Ouais.
Et c'est là que les thèmes qui ont été retenus c'est une exposition, c'est pas une exposition people, vous connaîtrez pas plus de leur vie, ils ont toujours eu une grande discrétion sur leur vie personnelle, puis on a souhaité respecter ça tout le long. Mm-hmm. C'est vraiment sur leur œuvre, sur leur travail, sur leur prise de parole dans les chansons. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé un corpus de chansons où les thèmes s'entrecroisaient et aussi qui devenaient presque cohérentes, qu'en fait, qui devenaient cohérentes dans le temps. Fait qu'à partir du moment, donc, au cœur de l'exposition, il y a cette grande ligne du temps, il y a cette collection d'objets qui s'est amassée au fil des années. Les Cowboys fringants ne sont pas les porte-parole d'une génération. Je pense que c'est plutôt un groupe qui est sensible, des personnes qui sont engagées, des personnes qui ont vécu avec leur époque et puis avec nous. Je pense aussi que ça fait partie du... la raison pour laquelle ils sont là. Et après, on a choisi, donc, à partir de cette ligne du temps, d'avoir 5 univers immersifs. Ces univers immersifs-là, bien sûr, il y a la vie de banlieue. Le motel Capri est au cœur, le premier disque qui est un des premiers albums qui les a fait connaître. Donc, on a ce décor de motel où on peut se coucher sur un charmant tapis gazon, s'asseoir sur des chaises solaires et regarder justement cette lune de banlieue qui nous présente les vidéos et qui nous présente les grands moments. Il y a eu après tout le début dans les bars. On peut s'asseoir avec dans un bar avec encore là...
Avec un verre de bière.
Oui, avec le verre de bière.
Mais ces décors-là, il faut le dire, là, quand on s'est posé la question comment recréer les décors, on a confié ça à un illustrateur qui est designer graphique, le Philippe Legris, qui nous a accompagnés là-dedans. Et on a vraiment discuté à comment recréer ça de façon soit illustrée ou photographique. Et il est arrivé avec une lui-même de cette génération-là, des Cowboys fringants, il est arrivé avec une composition graphique qui est absolument sensationnelle. Donc moi, je veux lui rendre hommage parce que
c'est vrai.
Une grande partie du succès de ces décors-là, c'est ces images qu'il a produites. De son cru, entièrement composé, mais elles ont un effet extraordinaire. Mais est-ce que je peux vous dire, moi, ce que j'aime le plus dans ce qu'on a...
Allez-y.
À un moment donné, ils ont fouillé beaucoup dans leurs trucs et puis ils ont retrouvé des textes originaux écrits sur des feuilles de papier, sur des arrières des devoirs de mathématiques. Alors, on a des textes de chansons qu'on connaît maintenant, raturés avec des propositions de textes et raturés et remplacés par d'autres paroles qui sont maintenant les paroles qu'on connaît et qui sont chantées partout à travers le monde, mais c'est derrière un devoir de mathématiques. Puis en plus, je peux dire que M. Lebeau avait des bonnes notes en mathématiques.
Bon, merveilleux. Non, franchement, c'est vraiment... très chouette, hein, tout ça, de savoir tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est ce fameux comité composé d'un historien, d'une chroniqueuse culturelle. On pense à Marie-Christine Blais, on pense en tout cas à Éric Bédard comme historien. On parle aussi de Jonathan Durand-Folco, philosophe, et bien sûr d'autres, comme ça, comme David Goudreau. Ces gens-là, vraiment, ont écrit des textes et je trouve que vraiment... ça donne toute une perspective, effectivement, au Cowboy fringant, vraiment, et ça marque vraiment l'époque. C'est une histoire, d'abord, c'est une époque aussi très foisonnante au niveau de tout ce
Monsieur
qui se passe.
Monsieur Venn aussi a écrit...
Monsieur Stéphane Venn, oui.
Et il a écrit des choses... ils ont tous été extrêmement généreux. Mais M. Venn nous donnait une perspective plus longue aussi, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est dans le métier.
C'est ça, du point de vue musical, entre autres.
Et je dois avouer qu'il a écrit des choses, moi, qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. J'ai beaucoup apprécié. Mais en fait, je pense que on voulait ne mettre que quelques citations seulement par secteur, là, par décor, on n'a pas été capable. On n'a pas été capable, il a fallu en mettre beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de contenu. En fait, ça a soulevé, du comité scientifique, là, c'était presque inépuisable, la quantité de sujets qui ont germé de cette carrière-là. C'est une carrière de 25 ans, là, de aussi importante pour des générations, ça soulève non seulement des souvenirs personnels, mais aussi des réflexions plus profondes. Et c'est ça que notre comité nous a témoigné.
Oui, il y avait Caroline Voyer aussi, directrice du Réseau des femmes en environnement. Donc, elle couvrait l'aspect plus environnemental de leur engagement, hein, parce qu'ils ont fondé une fondation aussi. Évidemment, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés aussi grâce à leur initiative. Alors, vraiment, c'est une exposition. Je pense qu'eux-mêmes ne réalisaient pas l'impact qu'ils auraient et ce qu'ils incarnent, ce qu'ils, en fait, après le recul, là, ce qu'ils pourraient incarner au niveau de la musique et de la culture et de l'imaginaire.
Oh, et ça fait partie de leur charme aussi, justement, de ne pas l'avoir constaté rapidement.
Oui, exactement. Ouais. Alors donc, ce groupe constitué de Carl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Jean-François Posé et Jérôme Duprat, voyons, c'est ça. Hein?
Oui, alors voilà. Jérôme Duprat.
Alors, merci d'être venu nous en parler. Il faut absolument voir cette exposition dans ce magnifique centre d'art Diane Dufresne, d'ailleurs, qui est absolument merveilleux.
Oui, jusqu'à la mi-octobre, si je ne me trompe pas.
Et puis, vous pouvez voir aussi une exposition de photos de Jean-René Dufort juste à côté.
Tout à fait, on en a parlé d'ailleurs. Alors, il y a un lien avec l'Amérique, là, dans les deux cas.
Tout à fait. Voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Oui, bonne journée.
Merci, au revoir.
Depuis toujours, elle berce mon enfance. Courir dans ses rues, goûter sa lumière. Grandir ici, dans le sud de la France. Entendre chanter les accents de la mer. Je viens d'ici, je suis une fille du soleil. Je danse sur le sable.
Voilà, c'est une chanson tout à fait estivale. Lou et Adriano, une fille du soleil. Lou étant une chanteuse française remarquée à The Voice Kids en 2016. En 2018, elle sort une réédition d'un premier album avec 4 nouveaux titres, dont Une fille du soleil en duo avec Adriano, qui est la révélation pop latino de l'année 2018. Et puis Lou qui va participer au projet Green Team, en passant la nouvelle génération des Kids United, dont on vous a fait entendre souvent ce groupe. Alors la même année, elle atteint le 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et puis Adriano, lui, ce jeune chanteur originaire de Valence en Espagne, est un autodidacte, danseur, chanteur et compositeur. Alors voilà, c'était notre chanson de l'été, Aime l'été, quoi. Il y avait le lien à faire.
Exactement.
Bon.
Oui.
Camille, bonjour.
Bonjour.
Alors,
Chantal.
On aborde tout de suite notre chronique cinéma. Je vous laisse filer parce que vous allez nous parler d'une belle programmation, une belle sélection de films gratuits pour l'été à TV5 Uni.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une plateforme qu'on connaît bien, hein, qui nous offre une programmation d'été avec 3 catégories. Des drames, des séries et aussi des films policiers et des comédies. Donc, vraiment, on a de beaux choix.
Et il y en a pas mal de films.
Il y en a beaucoup. Hein. Oui. Ils en ajoutent toutes les semaines. Environ 4 par semaine, et en ce moment, il y en a 48, donc des films d'époque très différentes. On a Les Souvenirs Perdus, un film de 1950, donc encore une fois, ça ne date pas d'hier. La voleuse avec Romy Schneider.
Ben oui, pour ceux qui ne connaissent pas Romy Schneider, les plus jeunes d'entre eux, d'entre nous,
qui peuvent vraiment justement apprécier ses qualités d'actrice dans ce film. On a L'aveu, donc un film la franco-italien qui est sorti en 1970. Donc c'est l'adaptation d'un livre qui porte le même nom, d'Arthur London, qui présente un pan de l'histoire du régime communiste en Tchécoslovaquie, donc en Europe de l'Est, et des enjeux qui sont liés à l'espionnage pendant la guerre froide.
C'est ça, donc ça c'est l'histoire, donc c'est vraiment la vue, hein, c'est un film vraiment à voir.
Ouais. Oui, vraiment, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, ou même quand on veut voyager, c'est aussi à ça que sert le cinéma.
Tout à fait.
On a des productions beaucoup plus récentes, donc là des films « Il n'y a pas de faux métier », alors apparemment qui est une comédie dramatique qui a été pas mal primée. « Juillet-août », un film jeunesse, « Notre-Dame », donc pas « Notre-Dame de Paris », mais en lien.
Ouais.
Adopte un veuf aussi, ça c'est un très beau film sur justement la perte d'un conjoint, puis après comment on peut se relever de ça. On a un film québécois, donc Chasse au Godard d'Abitibi, qui est sorti lui en 2013 si je ne me trompe pas, qui raconte donc l'exode de deux jeunes Abitibiens qui sont déchirés entre le désir de rester dans leur région ou alors de s'en aller. La réalisation a été faite par Éric Morin, qui signait donc son premier long métrage avec ce film.
C'est un réalisateur important quand même.
Oui, tout à fait. Il s'est fait connaître d'abord dans la télévision. C'était le concepteur de l'émission Mange ta ville, responsable de la mise en scène de Brazo TV. Donc, il a réalisé aussi la liste Il danse, qui ont été diffusées sur Radio-Canada.
Mm-hmm. Et puis donc, ce film, en fait, c'est un petit peu basé sur la visite en 1968 de Jean-Luc Godard.
Exactement, oui, donc qui est ce réalisateur français, si je ne me trompe pas. Ou alors
oui, absolument,
il
absolument.
Oui,
absolument.
Je ne voulais pas dire de bêtises parce que Godard, ça me fait toujours penser à l'Amérique, en fait, alors que c'est français, mais bon. Ouais. Donc oui, ça a été basé sur cette visite et il a eu carte blanche. En fait, il a fait une série de reportages lors de son passage à Noranda, excusez-moi, en 1968. Et donc, il a fait des reportages. Ma proposition de cette plateforme, c'est Noce d'or. Donc Noce d'or, qui est un téléfilm français qui a été réalisé en 2019, il est sorti sur sur Arte, en fait, la chaîne franco-allemande. C'est avec l'acteur Michel Vuillermoz. Donc j'écorche les mots parfois.
Bah oui, ça nous arrive, c'est pas évident là. Non, je sais bien.
C'est un beau film aussi, donc sur un homme qui accompagne sa femme qui a la maladie d'Alzheimer. Elle a oublié un certain nombre de choses et puis bon, eux, ils sont mariés et donc ils décident de rester auprès d'elle et de l'accompagner. Et c'est un diplomate, en fait, cet homme-là. Et on a le plaisir aussi de voir des figures de marque comme Valéry Giscard d'Estaing, qui représentait, donc qui était un président français. Donc ce diplomate, en fait, connaît des personnalités comme Giscard d'Estaing.
Puis bon, alors ça, c'est sur TV5 Uni, et vraiment, ils ont toujours une belle programmation. Ça,
vraiment, hein,
ils
oui.
Ils ont des documentaires, ils ont toutes sortes d'affaires. Enfin, franchement, là, ça nous fait voyager en plus.
Exactement.
Tout à fait. Il y a un peu la même idée, là, sur la plateforme de l'ONF.
Oui, tout à fait. Donc moi, c'est ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches plateforme. Et ce sont des choix différents, bien sûr. On a beaucoup plus de cinéma québécois et des films d'animation.
Ah oui.
Donc ça, pour les jeunes et même pour les moins jeunes, c'est toujours agréable de pouvoir regarder de bons films d'animation parce que aujourd'hui, avec la technologie, ils font des choses tellement, tellement réalistes que c'est très intéressant. Donc parmi les films disponibles, on a Il va faire beau demain, À l'affût, Mouche noire, Les Fros, D'où je viens ou Les oreilles mènent l'enquête. Donc c'est assez intéressant, le classement de la plateforme est un peu différent. On a un classement par date et aussi par année.
D'accord. Mais je pense que vraiment, ça, c'est aussi une autre plateforme très intéressante, la plateforme de l'ONF. Alors, plein de films à découvrir de ce côté-là.
Oui,
tout à fait. Et puis, bon, il y a quelques films à voir en plein air cette fin de semaine.
Oui, oui, oui. Donc, je connais votre amour pour le cinéma en plein air, Chantal. Donc, je vous ai fait une petite sélection. On a le film d'animation Lucas, qu'on pourra voir jeudi demain, de 20h à 22h au parc Lucie Bruno. Donc c'est un film d'animation, un court-métrage. Il sera précédé du court-métrage de l'ONF, La montagne de Sgana.
D'accord.
On a aussi Chanté 2, donc, qui est un film d'animation aussi, mais qui sera visible au parc de Talcy le dimanche 14 août à 20h.
D'accord.
Donc, vous y invite.
Parfait. Alors, ça complétait notre chronique d'aujourd'hui. Ben, une bonne fois, on parlera peut-être des cinéparcs. Vous savez, les cinéparcs, ça a commencé dans les années 70. Hein. Il y a toute une histoire des cinéparcs au Québec.
Ah oui, autour des cinéparcs.
Ce serait intéressant. Alors donc, c'est ça. Puis en fait, le cinéma en plein air, Camille, ben, semble-t-il que c'est une tradition grecque.
Ah.
Oui, c'est ça, en Grèce, ils font ça beaucoup sur les terrasses, les toits des maisons et puis dans le fameux... c'est ça, des quartiers très, enfin, très connus, bien sûr, en Grèce, à Athènes notamment. Enfin, c'est très populaire, soi-disant. Bon, le cinéma en plein air, enfin, ce serait originaire de la Grèce. Enfin, à suivre. On s'informera mieux. Alors, merci, Camille. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve demain, même heure, entre midi et 13h. Aime l'été. Ici Chantal Lavoie. Au revoir et je remercie tout le monde, mes collaborateurs et vous-même qui nous avez écoutés. Au revoir. Bonne journée.